France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Qui n'a pas sa police municipale? Eh bien, personne, ou presque. 28 000 agents répartis dans 4 500 communes. Le village gaulois qui faisait encore de la résistance était Brest, la dernière ville de plus de 100 000 habitants sans police municipale. Cette exception prendra fin après les élections. Le maire socialiste, à la tête de Brest depuis un quart de siècle, a fini par s'y résoudre. Il a mis des policiers municipaux dans son programme, comme tous ses adversaires. Est-ce qu'un maire peut aujourd'hui se présenter devant ses électeurs sans expliquer comment résoudre les problèmes de sécurité? La réponse est non. Est-ce qu'un maire aujourd'hui peut parler sécurité à ses électeurs sans accompagner son discours de policiers municipaux? Non plus. Cette campagne-là ne fera pas exception. Le thème de la sécurité est partout et donc celui des polices municipales aussi. Leur nombre, leur armement, armes létales ou pas, c'est un vrai sujet alors que historiquement la municipale n'était pas armée. Leurs prérogatives, nous parlerons bien sûr de ce projet de loi qui veut élargir le rôle des municipaux, les actes autorisés, mais jusqu'où et avec quelle formation aussi. À quoi sert-elle au fond la police municipale? Pour l'instant, en tout cas, est-ce qu'on est vraiment dans la préservation de la tranquillité au quotidien, les incivilités? Est-ce que, de fait et de toute façon, elle va désormais plus loin? L'augmentation des policiers municipaux, mairie de droite, mairie de gauche, est très exponentielle, mais il y a bien sûr des différences par territoire, nous en parlerons ensemble. Est-ce que cette augmentation se fait pour pallier des effectifs trop maigres en policiers nationaux? Est-ce qu'avoir une police municipale forte permet à la police nationale de se concentrer sur des grosses missions, comme le narcotrafic par exemple? Et puis, surtout, est-ce que plus de municipaux, c'est efficace? Est-ce que les habitants réclament cette proximité d'un uniforme dans tous les lieux de leur vie quotidienne, de votre quotidien, les amis? Vous allez nous raconter votre ville, vos souhaits, votre municipale à quelques mois des municipales. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Marie-Thérèse.
Oui, bonsoir. Donc, moi, je me questionnais effectivement sur la formation, ce que vous avez évoqué. Quelle différence il y a entre la formation de la police nationale et de la municipale? Comment ils sont recrutés? Est-ce qu'il y a des concours? Parce qu'on sait que les concours de la fonction publique ne sont pas adaptés aux missions qui sont demandées après aux agents. Et en termes de savoir-être et de savoir-faire, parce que c'est pas seulement régler des histoires de circulation, c'est aussi recueillir des plaintes, il me semble, même pour la municipale. Donc, je suppose qu'il y a quand même d'autres questions de savoir-être et de savoir faire et le temps de formation pour ces personnes. Voilà, écoutez, c'était ma question.
Et ben voilà, vos questions, Marie-Thérèse, il y en a beaucoup, mais elles sont bien claires. Merci beaucoup, merci pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table. Il y a Virginie Malocher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'Institut Paris Région et chercheuse associée au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Il y a Isabelle Florenne qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice Union Centriste des Hauts-de-Seine. Vous êtes co-rapporteuse du projet de loi dont je parlais en introduction sur l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. Et il y a Gariov Yakota qui est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Directeur de police municipale et porte-parole de la Fédération nationale des polices municipales de France. C'est peut-être pour vous, Gariov Yakota, ce début de première question de Marie-Thérèse. La formation d'abord des municipaux, comment on est formé?
Alors, il y a ce qu'on appelle dans la fonction publique territorial, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale qui dispense des formations et des cours. Et les policiers municipaux n'y échappent pas. Pour un agent d'exécution de terrain, il doit obligatoirement suivre une formation qui dure 6 mois avec des stages dans différents services, certes municipaux, mais également étatiques comme les douanes, mm-hmm. comme la police nationale, comme la gendarmerie, et également auprès des services sociaux de façon à ce que le policier municipal puisse avoir une large vue de son métier.
Est-ce qu'elle a bougé cette formation ces derniers temps, puisque on en parlera tout au cours de cette émission, mais l'augmentation de la police municipale, ça fait 20 ans en fait hein, que ça a commencé et que ça ne s'arrête jamais. Donc est-ce que cette formation a réellement bougé? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, vous les municipaux, pardon, j'espère que je dis pas une énorme bêtise, d'être quasiment formés comme les nationaux ou pas?
Oui. Alors okay. Moi-même, je suis un ancien de la police nationale, donc j'ai pu suivre une scolarité de gardien de la paix. C'est l'équivalent. Voilà. Mmh. Sauf que bien évidemment, pour les policiers municipaux, il y a des aspects beaucoup plus territoriaux qu'on ne voit pas en police nationale. Mais pour ce qu'on nous demande, la formation, elle est aboutie en effet, exécutée par le CNFPT.
On y reviendra aussi. Et je retiens, je le mets dans un coin, mais je voudrais qu'on fasse un tour de table, le fait que vous êtes un ancien national, et j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup des anciens de la police nationale qui désormais étaient dans la police municipale. Pour que les gens situent, Virginie Malochet, vraiment expliquer, je le disais, ça fait 20 ans que ces chiffres montent. Il n'y a aucune raison que ce chiffre descende. En termes d'efficacité, c'est-à-dire de vrais changements et de sécurité, c'est notable le rôle de la municipale par rapport à la nationale. On peut noter ça ou pas ?
Alors, pour répondre à cette question de l'efficacité, il faudrait s'entendre sur les objectifs qui sont poursuivis. Et pour le coup, les objectifs fixés aux polices municipales varient assez sensiblement en fonction des territoires et en fonction de ce que les maires demandent à leur police municipale, du rôle qu'ils leur donnent.
Ça veut dire qu'ils ont une marge, en fait. Les mairies ont une vraie marge pour
d'interprétation du rôle des polices municipales. Le mandat juridique est le même pour toutes les polices municipales de France. C'est le même cadre, si vous voulez, qui se rapporte au pouvoir de police des maires. Je vous la fais courte. Surveillance, prévention du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité publique. Mais voilà, au-delà de ce cadre-là, effectivement, il y a une grande diversité de modèles dans la façon d'employer les polices municipales.
Est-ce que ça veut dire, dans la diversité, Virginie Malochet, que on tape parfois tout près de ce qu'est le rôle, parce qu'on y viendra dans cette émission, de la police nationale quand on est à la municipale aujourd'hui, en
fait. La question qui se pose, c'est effectivement celle de savoir qui fait quoi. Exactement. Et comment on articule l'action de ces polices municipales qui sont très largement montées en puissance, qui se sont professionnalisées. Je repense à la question de Marie-Thérèse qui s'interrogeait aussi sur le recrutement. Les policiers municipaux sont recrutés sur concours ou alors par voie de détachement, c'est le cas de mon voisin, oui. Voilà, des passerelles de la police nationale, de la gendarmerie nationale vers la police municipale. Donc il y a effectivement cette dynamique de professionnalisation forte. Il n'en reste pas moins que l'exercice du métier n'est pas tout à fait le même d'un service à l'autre.
Et c'est là qu'on va aller, Isabelle Florès. Qu'est-ce qu'on rajoute, au fond, dans votre projet de loi ? Qu'est-ce qu'on permet aux municipaux ? Qu'est-ce qu'il faudrait permettre désormais aux municipaux de faire, qu'ils n'ont pas le droit de faire aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des gestes ? Est-ce que c'est purement administratif ? C'est-à-dire qu'on en fait un peu des officiers de police judiciaire, donc il y a une main un peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on leur permet ? Qu'est-ce qu'on doit leur permettre de faire en plus ?
Alors, ce projet, il n'est pas tombé du ciel. Il est né, d'une part, d'un rapport sénatorial que nous avons rendu en 2025, et puis également d'une concertation qui a eu lieu, qui s'est appelée le Beauvau des polices municipales. Suite à ces différents rapports...
Je vous interromps, Madame Florène, pardonnez-moi. Est-ce que ça veut dire que ça venait des maires qui disaient « on a besoin de plus d'espace »
Absolument.
En fait
okay. Absolument. Ça venait des maires. Je répondrai juste sur la question d'une espèce de concurrence sur le terrain. On s'est aperçu que finalement, depuis 20 ans, il n'y a pas eu de concurrence, mais il y a eu de la complémentarité. Et justement, de cette complémentarité sont nés également des besoins qui ont été exprimés par les élus, qui ont été exprimés par les maires, notamment lors de ces différentes concertations, qui étaient d'avoir des prérogatives judiciaires supplémentaires, parce que vous savez, finalement, quand le policier municipal, maintenant, il est sur le terrain quotidiennement, qu'il a des actes, qu'il rencontre des situations et qu'il n'a pas les moyens de faire un contrôle d'identité, faire un contrôle de voiture, d'interroger des fichiers.
Là, par exemple, concrètement, je suis en voiture, il y a soupçon que j'ai de la drogue dans le coffre. Est-ce que le municipal a le droit d'ouvrir
contrôler.
Le coffre?
Alors voilà, nous, ça va être, c'est pas dans le projet de loi actuel, mais ça va être dans nos propositions d'amendement, justement, de faire un contrôle des coffres, ne serait-ce qu'une inspection visuelle, comme nous l'avions demandé dans notre rapport. Parce qu'effectivement, quand vous avez un soupçon, maintenant, il faut pouvoir aller plus loin. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on va faire à la place de la police nationale l'enquête et qu'on va justement, sous le contrôle du procureur de la République, notamment travailler en concertation via ce qui est très important, si vous voulez, dans cette architecture qui se monte maintenant, c'est cette coordination et c'est ces conventions de coordination entre la police municipale, le procureur de la République, la justice et le préfet également sur les territoires. Parce que vous savez, on ne peut pas travailler n'importe comment, il faut des règles. Et c'est ça aussi qui est écrit dans ce projet de loi.
Et savoir aussi qui est dans le couloir de quoi. Absolument. Très rapidement, on va retourner au standard, et je ne vous ai pas oublié, Virginie Malocher, je vous le promets. Galov Yakota, est-ce que c'est aussi un souhait des policiers municipaux de dire donnez-nous, en gros, laissez-nous la bride sur le cou, laissez-nous un peu plus d'espace ou pas?
En fait, il faut pas ignorer que le métier de policier municipal, comme tous ceux qui travaillent dans la fonction publique, on fait un métier où on est au plus proche des habitants, de la population qui est en perpétuelle demande de sécurité. Évidemment, dès lors, nous demandons une extension de nos compétences, de manière à pouvoir déjà interrompre certaines pratiques qui sont normalement illégales, alors que nous n'avons pas le choix de le faire. On est souvent sur la limite. Vous parliez du contrôle d'identité.
Par exemple, alors vous tombez sur un point de deal. On va parler de choses très concrètes. Vous tombez sur un point de deal. Vous, le municipal, qu'est-ce que vous avez le droit de faire?
Alors, il faut savoir que l'article 78.2, donc le contrôle d'identité, c'est dès lors qu'on a des soupçons sur un individu de commettre ou alors qu'il a commis une infraction.
Ça, vous avez le droit?
Non, on n'a pas le droit.
Ok.
On n'a pas le droit. Donc, on fait de la présence.
Ok.
On fait de la présence. On les gêne. Donc on sature l'espace public, mais on peut pas aller plus loin.
D'accord. Vous avez pas le droit de saisir non plus. Alors là, on parle de drogue, même un paquet de clopes illégal, vous avez le droit.
Alors ça s'appelle pas de la saisie, ça s'appelle de l'appréhension. C'est-à-dire, dès lors que on est face à un flagrant délit, on peut appréhender l'individu qui a commis ce délit flagrant, et on peut appréhender la matière, évidemment, aux fins de remise à un OPJ.
Voici Catherine qui nous attend. On va revenir sur la remise à l'OPJ aussi. Voici Catherine. Pardon, Catherine, on vous écoute. Vous êtes la bienvenue.
Bonsoir. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu un combat d'arrière-garde parce que la police municipale a l'air vraiment institutionnalisée. Mais moi je m'insurge en fait contre l'existence même de la police municipale parce que il y a une police nationale et là il y a une égalité devant la loi parce qu'elle est la même pour tout le monde. Et là, selon la municipalité, vos invités l'ont dit, selon la décision du maire, il y a des prérogatives plus ou moins importantes, il y a des équipements qui sont plus ou moins importants, et pour moi, la police, c'est un pouvoir régalien. Et pourquoi est-ce que... Alors, je vous dis combat d'arrière-garde, parce que j'ai l'impression que les choses ont évolué, mais avant, il y avait une police de proximité qui n'existe plus, qui est remplacé par les polices municipales, mais les budgets dédiés par la municipalité pourraient être à la police nationale, pardon. Et voilà, ça fait des années que je vous remercie de me laisser.
Ben, je vous en prie, Catherine.
Parce que je fulmine contre les... Mais j'ai rien contre la police en général.
Hein, j'ai bien compris que, si j'ai bien compris votre question, l'idée c'est que ça ne devrait pas être des prérogatives des maires. La police, au fond, c'est régalien. Et vous êtes comme Quentin qui dit ceci, il est quand même bon de rappeler que malgré de très nombreuses promesses des élus et candidats locaux, la sécurité n'est pas la prérogative des communes, mais de l'État. La municipale, c'est la tranquillité publique, ce qui est très différent. Virginie Malocher, on entend les gens on sait bien aussi, on a fait moult émissions avec des maires ici, dès qu'il y a un problème, de toute façon, même en termes de sécurité ou d'incivilité, c'est vers lui qu'on se tourne. Donc on peut comprendre aussi pourquoi il a cherché à avoir quelque chose qu'il avait en main. Mais est-ce qu'au fond, l'expansion à ce point-là de la municipale, c'est pas finalement bien pratique, parce qu'on peut pas étendre à l'infini la police nationale, et qu'on n'a pas les moyens surtout d'étendre à l'infini la police nationale?
Eh oui, pas les moyens, en tout cas c'est comme ça.
Est-ce que c'est un pis-aller en fait, pour dire les choses clairement?
C'est du moins la manière dont les élus locaux le perçoivent et le vivent. Et s'ils développent leur propre service policier, c'est parfois par volontarisme, c'est parfois aussi de manière contrainte, un peu subie, dans une logique de compensation de ce qui est vécu comme... je ne sais pas s'il faut utiliser le terme de désengagement, mais c'est souvent vécu comme ça, en tout cas comme des carences, des insuffisances de la part des services de l'État sur ce terrain de la tranquillité, de la sécurité du quotidien. Je vais le formuler de cette manière-là. Et c'est vraiment ce mouvement-là qui explique la poussée des polices municipales, une fois de plus, j'insiste, parfois un peu à contre-cœur de la part des élus locaux.
Mais ce qui explique aussi, Isabelle Florenne, pourquoi, en effet, on leur donne plus de prérogatives, parce qu'au fond, on les transforme en nationaux, tout simplement. Puisqu'il n'y a pas assez de nationaux, transformons les municipaux.
Oui, alors moi, Je pense que depuis un certain nombre d'années, effectivement, vous l'avez très bien dit, les habitants se tournent vers leur maire pour les problèmes d'incivilité, pour des problèmes de délinquance, pour des problèmes de quotidien, de sécurité. Il faut savoir aussi que sur un certain nombre de territoires, et c'est pas cette demande de sécurité, elle tombe pas du ciel. Mmh. Elle vient parce que il y a une violence, il y a des comportements effectivement qui se sont répandus, quels que soient les territoires, quelles que soient les villes. Face à ça, vous l'avez dit, le premier magistrat de la ville, il est interpellé. C'est la première, je rappelle, tous les derniers sondages, la préoccupation des Français, numéro un des Français pour les prochaines municipales, c'est la sécurité à plus de 70%. Face à ça, effectivement, demande de prérogatives, toutefois raisonnable. Quand vous dites se substituer aux policiers nationaux, non. On va laisser le pouvoir d'enquête, j'ai bien dit, au procureur, l'encadrement pour que tout soit fait de manière légale. Les maires ne nous ont jamais dit qu'ils voulaient transformer leurs policiers municipaux en officiers de police judiciaire. Ils en connaissent les contraintes et ils ne veulent pas, surtout, emporter les responsabilités. Chacun doit, moi je pense, trouver cette articulation pour faire au mieux, pour assurer cette sécurité, cette sûreté, cet ordre public, sachant que le maintien de l'ordre, ça reste de la compétence d'une police nationale ou de la gendarmerie. Je veux dire, chacun doit trouver, mais je trouve que on arrive, en tout cas de ce qu'on perçoit, nous, en tant que rapporteurs au Sénat, c'est qu'on arrive à un moment un petit peu de maturation réelle du sujet. Et il faut quand même bien aussi le rappeler, il n'y a pas eu de texte sur les compétences municipales des policiers municipaux depuis le projet de loi et depuis la loi Chevènement, depuis 1999. Donc il était temps aussi, et c'est ce que veut dire le gouvernement, je pense aussi, à travers ce projet de loi, c'est quelque part cette reconnaissance demandée de l'installation des polices municipales dans le paysage de la sécurité en France. Et ça, c'était aussi important, je crois, de le dire de la part de l'exécutif.
Voici Stéphane qui nous attend. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
On vous écoute.
Vous m'entendez bien ?
Mais très très bien. On vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci pour votre émission et l'ensemble de vos émissions sur la radio publique. Je vous appelle en fait juste pour un témoignage. En fait, à titre personnel, je suis entre deux villes, Orléans et Bordeaux, que je connais bien. Et effectivement, là, je suis depuis quelques mois à Bordeaux. Et moi, mon témoignage, ça concerne effectivement des incivilités au quotidien, mais ça relève des citoyens, de leur responsabilité, de leur propre rapport aux règles. Donc là, moi, j'interpelle la dimension de la responsabilité de chaque citoyen et l'éducation. Pour autant, je vois les problématiques d'un quartier à un autre. C'est-à-dire, je trouve aussi dans les villes, et là, je compare deux villes, mais il y a inégalité selon qu'on habite un quartier de l'accès, ou en tout cas du droit à la sécurité. Effectivement, selon les prérogatives de la police municipale ou de la police nationale. Moi, je suis dans un quartier de Bordeaux dit, entre guillemets, populaire. Je vois bien que ce que l'on peut vivre dans ce quartier, le quartier des Capucins situé près de la gare, où les actes d'incivilité sont quasi quotidiens, et les risques avec des points de deal importants. Donc là, je sais que la municipalité travaille beaucoup avec les services de l'État pour augmenter les moyens, mais de la même manière, dans une autre ville, je vois bien que la sécurité renforcée est de la police municipale ou de l'État, dans certains quartiers, effectivement, vous sentez du coup plus en sécurité que d'autres. Donc la question, c'est aussi, compte tenu des moyens, que ce soit relevant de l'État ou des municipalités, comment aussi se répartissent ces moyens pour que les citoyens, globalement, se sentent en sécurité dans une ville. Voilà, donc il y a aussi cette question de répartition.
Stéphane,
juste un dernier point.
Pardon, je vous en prie, ouais.
Je discute avec des collègues, notamment des collègues femmes qui expliquent qu'elles, rendez-vous compte, circulent en vélo pour éviter aussi d'être interpellées dans la rue en marchant. Vous voyez, il y a des stratégies aussi pour ces questions de sécurité. Vous voyez, il y a des stratégies qui se mettent en place chez les individus pour éviter, en tout cas, conserver une certaine sécurité dans la ville. Voilà.
Merci Stéphane pour votre témoignage. Merci beaucoup. Galor Viacota, est-ce que vous avez le sentiment, vous, dans votre pratique, il y a effectivement Stéphane parlait des quartiers populaires ou d'autres endroits, etc. Il y a des zones à policiers nationaux, des zones à policiers municipaux. Il y a des tâches. Là, par exemple, il parlait d'incivilité tout simplement avec ces femmes en vélo, des tâches dont vous avez le sentiment ça, c'est vraiment une tâche municipale. Est-ce que cette répartition là vous semble extrêmement claire, vous, sur le terrain ou pas?
Il n'y a pas de différenciation territoriale dans la gestion de la sécurité dans les communes. Tout ça, c'est à la discrétion du maire. Je connais effectivement certains maires qui disent aux policiers municipaux « Vous n'irez pas dans ce quartier car vous vous mettez en danger. Et je n'ai pas envie d'en porter la responsabilité. » Donc effectivement, alors même que la police municipale, justement, est là pour la population et normalement pour les classes les plus défavorisées.
Et ça, c'est intéressant, Virginie Malocher, parce que les différences, effectivement, d'un quartier à l'autre, mais aussi d'une ville à l'autre, au fond, il a raison, notre auditeur et notre auditrice précédente aussi, il y a une disparité et donc un déséquilibre d'une ville à l'autre qui est extrêmement important. Là-dessus, en effet, est-ce que on se dit, quartier difficile, ce sera pour les nationaux, après tout, ils sont formés pour, quartier différent ou incivilité, ce sera pour les municipaux, parce que moi, le maire, je ne prendrai pas la responsabilité d'un incident avec les municipaux.
La répartition ne se fait pas nécessairement de cette manière. Là, une fois encore, il faut regarder localement comment les choses s'organisent et la donne est très variable. Dans la question de Stéphane, il y avait cet enjeu de répartition des moyens et ça me paraît tout à fait fondamental parce que on parlait tout à l'heure du qui fait quoi, de l'articulation. Il y a cette notion dans l'air du temps de continuum de sécurité très consensuel. Tout le monde s'accorde à dire que voilà, la sécurité est l'affaire de tous. Mais derrière cette question du qui fait quoi, il y a aussi la question du qui paye quoi. Et pour le coup, toutes les collectivités territoriales n'ont pas les mêmes moyens. Par-delà les choix politiques, n'ont pas les mêmes moyens pour investir dans ce domaine-là. Donc voilà, cette notion de continuum de sécurité, elle est intéressante, elle est significative d'une évolution des acteurs de la sécurité, mais il s'agit aussi de lui donner du contenu très, très concret.
Quand on regarde... C'est la raison,
pardon, allez-y,
oui,
je vous en prie,
c'est la raison pour laquelle il y a des subventions pour les villes les plus modestes qui sont délivrées par l'État, qui peuvent être délivrées par les départements, par les régions. Donc ça réduit les inégalités. Et puis vous avez, vous savez, la péréquation entre les communes. Les communes les plus pauvres dans les départements bénéficient justement... De l'argent des communes les plus riches.
Je voudrais qu'on fasse juste un point géographique, en fait, parce que ça, on va redonner des chiffres pour les gens qui nous écoutent, mais 3% des communes de moins de 3500 habitants ont une police municipale. 63%, poum, la montée est très soudaine, des villes de moins de 5000 habitants, 84% des villes de moins de 10 000 habitants, et presque 100%, je parlais de Brest tout à l'heure, voilà, puisque maintenant elle va rentrer dans le giron, si je puis dire, des villes de 100 000 habitants. C'est ça, quand même, la municipale. Est-ce qu'on peut encore parler d'un partage droite-gauche, est-ce que ce partage désormais n'existe plus ou pas, Valérie Malocher, mais Virginie Malocher, pardon.
Peu importe. Les lignes ont quand même bougé. Alors, en tendance, les polices municipales sont tout de même plus nombreuses, je vais dire plus offensives, plus équipées, plus armées dans les villes qui sont gérées par la droite, villes gérées par la droite qui investissent davantage dans la sécurité, ça vient d'être documenté notamment par l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Mais cette tendance, il convient de la nuancer très largement, parce qu'il y a tellement de contre-exemples qui nous montrent... Voilà, l'auditeur parlait tout à l'heure de la ville de Bordeaux, j'y ai aussi longtemps vécu, qui a été gérée par la droite pendant de nombreux mandats avec une police municipale non armée, et c'est après la bascule à gauche, le maire Europe Écologie Les Verts qui a armé sa police municipale. Donc voilà, des contre-exemples nombreux et toute une série d'autres paramètres dont tenir compte pour saisir le caractère contingent, en quelque sorte, des polices municipales et des politiques locales de sécurité.
On va voir dans un petit instant Mathieu Hanotin, qui est maire de Saint-Denis. C'est intéressant de lui parler, mais justement, et pour alimenter le bout de conversation qu'on aura avec vous, Monsieur Hanotin, je voudrais d'abord qu'on écoute Olivier. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous les invités.
On vous écoute.
Et bonsoir aux auditeurs. Rapidement, il y a plusieurs points. J'ai fait l'école de police à l'époque des policiers auxiliaires. Donc il y avait 2 mois d'école, formation au tir, et on pouvait arriver sur la voie publique armé d'un pistolet. Quand je vois en fait la disproportion en fait du nombre de balles tirées par des spécialistes de la police criminelle, que ce soit la BRI, le GIPN, gendarmes, et les policiers qu'on peut avoir de la police nationale, on, je laisserai les personnes autour de vous donner des chiffres exacts, mais ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que, quand le GIPN ou autre intervient, il y a beaucoup moins de morts, même face à des menaces plus dangereuses, que lorsque la nationale agit, alors a fortiori la police, pour moi, municipale. Elle ne doit pas être armée, parce que la tranquillité publique, ça se règle pas avec une arme. Mmh. Ça se règle en voyant des policiers dans la rue. J'habite à Tours, des policiers, je ne les vois qu'en voiture au quotidien. Mmh. Il faut qu'on les appelle, mais il n'y a plus de patrouille. Moi, j'ai patrouillé dans les villes, j'ai même fait des points pour faire traverser les enfants. J'étais connu, on est connu, on vient nous chercher, on nous parle et on nous fait confiance.
Merci beaucoup.
Dans une voiture, on n'est pas accessible et donc la police municipale, elle doit garder son rôle local qui est très important. Vraiment, vraiment.
Olivier,
mais pas les armées.
Merci beaucoup Olivier. Un rapide tour de table avant de rejoindre Mathieu Hanotin là-dessus. Je vous ai vu réagir, Gerlov Yakota, l'arme, indispensable ou pas pour vous ?
Totalement indispensable. Mmh. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, il y a quelques jours, a évoqué le nombre d'attentats qui ont été évités par les services très compétents de la police nationale et de la gendarmerie, qui sont quand même assez un nombre assez important. On sait qu'à un moment donné, on va passer à travers les mailles du filet, d'autant plus qu'il y a quand même des attentats au couteau. Voilà. Mmh. Et ces gens qui commettent des attentats, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans les endroits où il y a de nombreuses personnes, où il y a des manifestations festives, associatives. Qui on met dans ces endroits-là pour assurer la quiétude, eh ben on y met des policiers municipaux. Donc les policiers municipaux seront les premiers confrontés à ces personnes-là. Si on leur donne pas les moyens d'agir, à quoi sert-elle ?
Isabelle Florenne, là-dessus, Madame la sénatrice, sur l'armement des municipaux. L'armement, et surtout, parce qu'il y a une notion dans l'armement, hein, armement tout court, si je puis dire, armement létal, ce sont deux choses très différentes.
Bien sûr, non, mais ce qu'il faut... Moi, je pense que c'est plus le sujet, maintenant. Pour ça l'a été il y a 15 ans. Je pense qu'à maintenant, un maire qui veut, qui est responsable des agents qui met sur le terrain dans des conditions qui sont parfois, vous le disiez, monsieur, qui sont parfois difficiles, c'est criminel que de ne pas lui donner les moyens de se défendre. Donc là, il faut être très clair, je pense que c'est plus un sujet. Ce qui est le sujet derrière, que j'entends dans la question que posait votre auditeur, c'est la question quand même du contrôle et la question de la formation. Moi, je dis que là-dessus, vous avez répondu, le CNFPT, depuis un certain nombre d'années, dispense des formations. Je pense qu'il faut que les choses soient un peu, et c'est ce qu'on fait dans le projet de loi, un peu rationalisées pour notamment des policiers, des gendarmes qui viennent maintenant dans la police municipale et qui ont des compétences, mais aussi le contrôle. Je pense que là-dessus, il faut aussi peut-être que les choses soient un peu mieux, en tout cas pour le citoyen, visible en termes de contrôle de la qualité et de contrôle de ce que font les policiers municipaux. C'est aussi un des volets de ce projet de loi.
Je vous ai lu, Virginie Malochi, en préparant cette émission, et j'ai lu quelque part sous votre plume qu'il serait de toute façon très difficile de recruter, voire de faire rester des municipaux désormais sans leur proposer une arme.
Et très clairement, cette question de l'armement, elle a été longtemps très clivante, hein, s'agissant des polices municipales, vous l'avez dit. Elle l'est de moins en moins. Le constat que je peux faire en tant qu'observatrice, pour le coup, c'est celui, alors, je ne vais peut-être pas dire d'une généralisation, mais en tout cas d'une diffusion progressive, d'une banalisation de l'arme
létale à chaque fois.
Vous avez bien fait de le préciser, parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des policiers municipaux sont dotés d'un bâton de défense et de gazeuse. Ça ne fait pas vraiment débat, pour le coup. Si les maires, même ceux qui étaient réticents, hésitants à armer, y vont aujourd'hui, si je peux le dire comme ça, c'est précisément, enfin en tout cas c'est l'une des raisons majeures que celle que vous indiquiez, c'est-à-dire pour parvenir à pourvoir les postes ouverts dans leur service de police municipale. Sans cela, c'est très difficile de recruter. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet des polices municipales, il y a pas mal de temps maintenant, les avis étaient plus partagés. Aujourd'hui, l'immense majorité des policiers municipaux souhaitent être armés, et je dirais même refusent de travailler dans des services non armés. Ce qui nous dit aussi des choses sur le rapport à l'environnement, le rapport au public et la manière d'investir le métier.
On a tendance à fantasmer l'arme. Hein. Mais l'arme, c'est un outil outil. C'est un outil de défense. On souhaite qu'une chose, c'est à ne jamais avoir à l'utiliser. Je rappelle qu'à Nice, et là je vais peut-être apprendre des choses à vos auditeurs, à Nice, les premiers à avoir tiré sur le camion fou sur la plage, c'était les policiers municipaux avec des calibres totalement insuffisants. Et si on leur avait donné les armes qui leur ont été attribuées par la suite en 2016, des 9 mm, probablement qu'il y aurait eu des morts en moins. Et ça, il faut le prendre en considération.
Et il y a eu aussi un passage, sûrement quelque chose à la mort de Clarisse Jean-Philippe, qui était policière municipale, effectivement.
Point d'inflexion dans
exactement.
Le débat.
Oui, un vrai point d'inflexion de ce côté-là. Bonsoir Mathieu Hanotin.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci d'avoir patienté, de nous avoir écoutés. Vous êtes le maire de Saint-Denis, vous êtes un maire PS. Vous avez, si je ne m'abuse, 120 policiers municipaux, c'est
160.
Ça chez... 100... Ah ben voyez, bah, écoutez, j'allais vous demander si l'objectif était à 150. Vous me dites que vous êtes déjà à 160. On dit, moi c'est ce que j'ai lu en tout cas en préparant cette émission, que votre municipale à vous était agissante. Ça veut dire quoi une police municipale agissante ?
Ben, c'est moi j'étais j'ai écouté très attentivement le débat que vous avez eu. Moi je pense que l'enjeu d'une police municipale, c'est justement d'être la police de proximité. Mais qu'est-ce que c'est être une police de proximité? C'est pas une police qui deviendrait une police où on confondrait ce qui est un policier et un animateur de quartier. On a des animateurs de quartier, on a des agents de prévention, on a des médiateurs, tout ça c'est très bien. Une police de proximité, c'est une police qui sait, dans le cadre de la décentralisation, s'adapter à la réalité d'un territoire. Réalité qui est différente à Saint-Denis et dans un petit dans une petite ville de 2000 habitants quelque part en province. Et donc ça nous permet justement d'ajuster la réponse policière par rapport à la réalité des de la réalité de l'insécurité et la réalité des problèmes de tranquillité publique.
Mais
c'est ce que
Pardon, je vous en prie, mais est-ce que vous avez le sentiment, je vous ai entendu dire police de proximité d'abord, est-ce que vous avez le sentiment que vous devez y aller, vous, sur la police municipale et même la faire gonfler dans une ville comme la vôtre, parce que vous savez que vous n'aurez pas plus d'effectifs nationaux ou pas? Ou alors, même pour retransformer, pardon, ce qu'a été autrefois la police de proximité, dont on sait aujourd'hui qu'elle n'existe plus, en tout cas pas de la même manière.
Non mais, moi, philosophiquement, je crois beaucoup plus dans les polices municipales pour assurer ce rôle de proximité, parce que finalement, je l'ai dit en ces termes-là, mais le maire connaît mieux son territoire qu'un commissaire qui va changer tous les 3 ans, par exemple. Il est en contact direct avec les aspirations des habitants. Il est aussi responsable devant les habitants et les habitantes s'il y a des problèmes. Et ça, c'est pas neutre dans le rapport police-population. Et donc, moi, je pense que c'est mieux, ce qui pose une question, ça a été posé d'égalité, mais c'est une fausse question, la question de l'égalité républicaine. Parce que sinon, il faut pas faire de décentralisation sur rien à ce compte-là, si on veut l'égalité absolue partout.
Mais
la réalité, c'est que nos territoires sont différents et il y a besoin de réponses différentes. Moi, vous savez, depuis qu'on a fait la police municipale à Saint-Denis, elle est agissante, je vous le confirme, elle est engagée et elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans tous les quartiers de la ville. On a fait un numéro court pour que les habitants puissent l'appeler. En 2019, avant, avec mes prédécesseurs, il y a eu 249 appels à la police municipale. En 2025, il y en a eu 52 000. Ça a permis une chose sur une statistique très simple, qui est celle du ministère de l'Intérieur, que je vous invite à vérifier sur le site. On a fait baisser les vols violents de 77% sur la ville, et de 33% sur les vols avec ruse, sans violence. Ça, c'est très net, et la seule chose qui a changé depuis 2019, c'est la police municipale que nous avons créée à Saint-Denis.
Est-ce que ça veut dire que vous aussi, vous dites, puisqu'elle est là, et vous parlez de son côté très agissant, et donc de sa visibilité dans la population, est-ce que vous dites, en effet, il faut donc maintenant passer au stade supérieur, c'est-à-dire élargir ses prérogatives, lui donner plus d'espace? Est-ce que vous êtes 100% d'accord avec ça, vous, monsieur Hanotin?
Alors, ou pas? Moi, j'ai travaillé sur le Beauvau de la sécurité, et évidemment, on est de très nombreux maires, pour le coup, de droite et de gauche, à appeler à une revoyure de la loi Chevènement de 99, parce que ce n'est plus adapté à la réalité que nous vivons au quotidien. Je vous donnerai un seul exemple qui, pour le coup, est prévu dans la loi, même si, de mon point de vue, la loi n'est pas suffisante à ce stade. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, dans toutes les grandes métropoles, à un problème majeur, celui des ventes à la sauvette, notamment de cigarettes de contrebande. Chacun le voit devant les gares, les métros, etc. Aujourd'hui, les policiers municipaux n'ont pas le droit de saisir les marchandises illégales qui sont pourtant nocives pour la santé. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés pour 3 paquets de cigarettes d'emmener le contrevenant devant un officier de police judiciaire, et évidemment l'OPJ vous dit pas du tout, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc si jamais il ne récupère pas, parce que la personne abandonne du coup pour ne pas aller au commissariat son truc, c'est-à-dire qu'on serait obligé de laisser repartir les contrevenants et de les laisser agir en toute impunité. C'est évidemment pas ce que nous faisons, et la loi va permettre de changer ça en donnant finalement cette compétence judiciaire de saisie de ces de ces cigarettes illégales.
Monsieur Hanotin, est-ce que vous avez le sentiment que la gauche a longtemps déserté ces questions de police municipale et que aujourd'hui, dans beaucoup de villes, si j'ose dire, elle se rattrape, hein, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a ce retard-là? Est-ce qu'il y a surtout ce nouveau regard, en fait, peut-être au regard de la police et de la municipale, de la part des municipalités de gauche?
Vous savez, la gauche, elle gère la majorité des villes de plus de 100 000 habitants. Mmh. Une majorité. Et dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, il y a des polices municipales qui sont engagées, qui progressent, qui avancent. Et effectivement, les polices municipales aujourd'hui, ce n'est pas les polices municipales d'hier, mais parce que la situation que nous vivons, en termes de tranquillité publique ou de délinquance, n'est pas la même. Mmh. Moi, vous savez, je ne sais pas faire la différence entre la délinquance et la tranquillité publique. Mmh. Parce que la délinquance génère de l'intranquillité publique. Le trafic de drogue, mes opposants, notamment ceux de la France Insoumise, disent que ce n'est pas la responsabilité de la police municipale de s'en occuper. Mais qui subit les conséquences du trafic de drogue? Ce sont les habitants, en particulier de nos cités, dans les quartiers les plus populaires, qui ne peuvent pas dormir la nuit. Et donc oui, la police municipale, elle intervient. Mmh. Pas sur, en coopération avec la police nationale, qui elle fait des enquêtes évidemment, et on n'aspire pas du tout à faire ça. Mais par contre, on aspire à faire cesser tous les troubles. Et par rapport au débat qu'il y avait sur l'armement, je me permets que monsieur Agnew...
Je vous le dis, en plus monsieur Hanotin, je vous interromps une seconde, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs forcément qui ont réagi aux histoires d'armement. Alors il y en a qui disent, bah oui, pas de souci pour armer les municipaux, c'est ce que dit Serge. Mais il n'y a rien de pire de quelqu'un qui est armé, qui a peur, donc attention à la formation. On a Céline qui dit, moi je suis choquée d'entendre une sénatrice, c'est pour vous Madame Florenne, déclarer tranquillement comme si c'était évident que la police municipale ne doit pas être armée, etc. La question de l'armement, monsieur Hanotin.
Je vous dis une chose. Armement, formation. La question de l'armement, en fait, elle est liée à la question des missions. Si vous demandez à votre police municipale de participer à l'acte de sécurité globale, et que donc, potentiellement, le policier peut se retrouver en face de quelqu'un qui lui-même est armé, d'une arme blanche ou d'une arme létale, il doit être armé pour pouvoir se protéger, et surtout pour pouvoir protéger les citoyens qui seraient potentiellement menacés. Deuxièmement, la question de la formation. Il faut arrêter de dire que les policiers municipaux sont moins bien formés que les policiers nationaux. Enfin, je veux dire, on est soumis à des obligations, et la différence entre nous et l'État, c'est que nous, quand on ne respecte pas ces obligations, eh bien, on supprime l'agrément.
Mathieu,
ce n'est pas forcément le cas chez l'État. Et de la police municipale de Saint-Denis, on donne par exemple ces 50 cartouches minimum par an. Chacun des agents tire 200 cartouches, pour vous donner un exemple.
Merci beaucoup, monsieur Hanotin. Mathieu Hanotin, maire PS de Saint-Denis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais la refaire, la phrase de Céline, Madame Florenne, qui disait effectivement, et c'est moi qui l'ai fourchée, je suis choquée, hein, la police municipale doit être armée. Donc elle était choquée par ce que vous disiez à l'instant, et chacun y a répondu. Est-ce qu'on a envie d'être policier municipal de plus en plus, ou pas? On a des chiffres pour ça, Virginie Malocher ou pas?
Pas de chiffres, mais des enquêtes qualitatives, des entretiens avec les policiers municipaux qui invitent à déconstruire les idées reçues en la matière. Effectivement, ce ne sont pas des sous-policiers qui
Et donc ça recrute bien, quoi. C'est le principe, ça recrute bien,
je le disais tout à l'heure. Il y a aussi des mouvements de transfuge, je vais dire ça comme ça, de la police nationale, de la gendarmerie vers la police municipale. L'une des raisons, l'un des motifs principaux mis en avant par les policiers municipaux pour qui justifier le choix, qui transfuge les autres, c'est un enjeu qui est lié à la possibilité de concilier vie privée et vie professionnelle, puisqu'on choisit son lieu d'affectation quand on est policier municipal.
On n'a plus le temps, monsieur Yacota, mais quand vous transfugez-vous, est-ce que c'est aussi parce que la municipale a meilleure image que la nationale ou pas?
Il faut arrêter très rapidement d'imaginer que la police nationale, c'est un seul métier. Vous avez les enquêteurs d'un côté, mais vous avez aussi des agents de l'autre côté qui font la présence sur le terrain qu'on appelle la police secours. En fait, on ressemble beaucoup plus aujourd'hui, effectivement, dans certaines polices municipales, à la police nationale dans cette mission de police secours.
Allez, les amis, je vous remercie beaucoup de votre présence au téléphone. Merci à tous pour vos nombreux appels. La pub d'abord.